Louis Pergaud, La guerre des boutons. Livre 1, La guerre. La déclaration de guerre. Quant à la guerre, il est plaisant à considérer par combien de vaines occasions elle est agitée et par combien légère occasion éteinte. Toute l'Asie se perdit et se consomma en guerre pour le maquerellage de Paris. Montaigne, Livre second, chapitre 12. Attends-moi, grand Gibus, et la boulot, ses livres et ses cahiers sous le bras.
Grouille-toi alors, je n'ai pas le temps de cotonner, moi.
Il y a du neuf, ça se pourrait.
Quoi? Viens toujours.
Et Boulot ayant rejoint les deux Gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune. C'était un matin d'octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l'horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d'abord, qui s'accentuait d'un seul coup comme un plongeon d'épervier, dès que l'angle de chute devenait moins obtus. L'air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d'agonie ou un vagissement douloureux. L'été venait de finir et l'automne naissait. Il pouvait être 8 heures du matin. Le soleil rôdait triste derrière les nues et de l'angoisse, une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne. Les travaux des champs étaient achevés et, un à un ou par petits groupes, depuis 2 ou 3 semaines, on voyait revenir à l'école les petits bergers à la peau tannée, bronzés de soleil, aux cheveux drus coupés ras à la tondeuse, la même qui servait pour les bœufs, aux pantalons de droguets ou de moulinets rapiécés, surchargés de patins aux genoux et au fond, mais propres, aux blouses de crisette neuves, raides, qui, en déteignant, leur faisaient les premiers jours, les mains noires comme des pattes de crapaud, disait-il. Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage. Quelques-uns, cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l'entrée, gourmandaient les traînards et, au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leurs casquettes, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Les deux Gibus du Vernois et Boulot, qui les avaient rejoints en cours de route, n'avaient pas l'air d'être imprégnés de cette mélancolie douce qui rendait traînassant les pas de leurs camarades. Ils avaient au moins 5 minutes d'avance sur les autres jours. Et le père Simon, en les voyant arriver, tira précipitamment sa montre, qu'il porta ensuite à son oreille pour s'assurer qu'elle marchait bien et qu'il n'avait point laissé passer l'heure réglementaire. Les trois compagnons entrèrent vite, l'air préoccupé, et immédiatement gagnèrent, derrière les cabinets, le carré en retrait abrité par la maison du père Gugu, Auguste, le voisin où ils trouvèrent la plupart des grands qui les y avaient précédés. Il y avait là le Braque, le chef, qu'on appelait encore le grand Braque, son premier lieutenant Camus, ou Camus, le fin grimpeur ainsi nommé parce qu'il n'avait pas son pareil pour dénicher les bouvreuils, et que, là-bas, les bouvreuils s'appellent des Camus. Il y avait Gambette de sur la côte, dont le père républicain de vieille souche, fils lui-même de 48 ans, avait défendu Gambetta aux heures pénibles. Il y avait la Crique qui savait tout, et Tintin, et Guignard le Bigle, qui se tournait de côté pour vous voir de face, et Tétas ou Tétard, au crâne massif, bref, les plus forts du village, qui discutaient une affaire sérieuse. L'arrivée des deux Gibus et de Boulot n'interrompit pas la discussion. Les nouveaux venus étaient apparemment au courant de l'affaire. Une vieille affaire, à coup sûr, et elles se mêlèrent immédiatement à la conversation, en apportant des faits et des arguments capitaux. On se tut. L'aîné des Gibus, qu'on appelait par contraction Grand Gibus pour le distinguer du Petit Gibus, ou Petit Gibus son cadet, parla ainsi. « Voilà, quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour des Menelots, Les Vélerans se sont dressés tout d'un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux, à nous foutre des pierres et à nous montrer des trics. Ils nous ont traités de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de...
« De couilles molles !»
reprit le braque, le front plissé. « Et qu'est-ce que tu leur y as répondu là-dessus »«
Là-dessus, on s'en sauvait, mon frère et moi, puisque nous n'étions pas en nombre. Tandis que ils étaient au moins 15, et qu'ils nous auraient sûrement foutu la pile. »«
Ils vous ont traité de couilles molles !» scanda le gros Camus, visiblement choqué, blessé et furieux de cette appellation qui les atteignait tous. Car les deux gibus, c'était sûr, n'avaient pas été attaqués et insultés que parce qu'ils appartenaient à la commune et à l'école de Longeverne.
Voilà, reprit Grand Gibus. Je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des gens foutres et des lâches, on leur y fera voir si on est des couilles molles.
D'abord, qu'est-ce que c'est Tixo, des couilles molles, fit Tintin.
La crique réfléchissait.
Couilles molles. Des couilles, on sait bien ce que c'est, pardine, puisque tout le monde en a. Même le miro de Lysée, et qu'elle ressemble à des marrons sans bogue.
Mais couilles molles.
Couilles molles.
Sûrement que ça veut dire qu'on n'aidait pas grand-chose, coupa Tigibus, puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, je l'ai appelé couilles molles comme ça, pour voir. Et mon père, que je n'avais pas vu et qui passait justement sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une bonne paire de claques. Alors ?
L'argument était péremptoire et chacun le sentit.
Alors, bon Dieu, il n'y a pas à rebeuiller plus longtemps. Il n'y a qu'à se venger. Non, conclut le braque.
C'est-y votre idée, vous autres ?
Foutez le camp de là, hein, les chiens en lit !
Fit Boulot au petit qui s'approchait pour écouter.
Ils approuvèrent le grand Lebrac à l'unanimité, comme on disait. À ce moment, le père Simon apparut dans l'encadrement de la porte pour frapper dans ses mains et donner ainsi le signal de l'entrée en classe. Tous, dès qu'ils le virent, se précipitèrent avec impétuosité vers les cabinets, car on remettait toujours à la dernière minute le soin de vaquer aux besoins hygiéniques, réglementaires et naturels. Et les conspirateurs se mirent en rang silencieusement, l'air indifférent, comme si rien ne s'était passé et qu'ils n'eussent pris, l'instant d'avant, une grande et terrible décision. Cela ne marcha pas très bien en classe ce matin-là, et le maître dut crier fort pour contraindre ses élèves à l'attention. Non qu'ils fussent du potin, mais ils semblaient tous perdus dans un nuage, et restait absolument réfractaire à saisir l'intérêt que peut avoir pour de jeunes Français républicains l'historique du système métrique. La définition du mètre, en particulier, leur paraissait horriblement compliquée. 10 millionième partie du quart, de la moitié, du...
Oh merde, pensait le grand Lebrac.
Et se penchant vers son voisin et ami Tintin, il lui glissa confidentiellement.
Heure et carte.
Le grand Lebrac voulait sans doute dire « Eureka ». Il avait vaguement entendu parler d'Archimède, qui s'était battu autant jadis avec des lentilles. La crique qui avait laborieusement expliqué qu'il ne s'agissait pas de légumes, car Lebrac, à la rigueur, comprenait bien qu'on pût se battre avec des pois qu'on lance dans un fer de porte-plume creux, mais pas avec des lentilles. Et puis, disait-il, ça ne vaut pas les trognons de pommes ni les croûtes de pain. La crique lui avait dit que c'était un savant célèbre, qui faisait des problèmes sur des capotes de cabriolet, et ce dernier trait l'avait pénétré d'admiration pour un bougre pareil, lui qui était aussi réfractaire aux beautés de la mathématique qu'aux règles de l'orthographe. D'autres qualités que celle-là l'avaient, depuis un an, désigné comme chef incontesté des Longevernes. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lièvre, il n'avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas, quel que fût le mode de projection du caillou. À la main, à la fronde à ficelle, au bâton refondu, à la fronde à élastique, il était dans les corps à corps un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables au curé, au maître d'école et aux gardes champêtres. Il fabriquait des quisses merveilleuses avec des branches de sureau grosses comme sa cuisse. Des quisses qui vous giclaient l'eau à 15 pas, mon ami. Oui, parfaitement. Et des tops qui pétaient comme des pistolets et qu'on ne retrouverait plus que les balles d'étoupe. Obi, c'était lui qui avait le plus de pouces. Il savait pointer et rouletter comme pas un. Quand on jouait au pot, il vous foutait les snogs sur les onsottes, à vous faire pleurer. Et avec ça, sans morgue aucune ni affectation. Il redonnait de temps en autre à ses partenaires malheureux quelques-unes des billes qu'il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grand cœur. À l'interjection de son chef et camarade, Tintin joignit les oreilles, ou plutôt les fit bouger comme un chat qui médite un sale coup, et devint rouge d'émotion. « Ah ah » pensa-t-il, « ça y est, j'en étais sûr que ce sacré Lebrac trouverait le joint pour leurs y faire. » Et il demeura noyé dans un rêve, perdu dans les mondes de supposition, insensible aux travaux de Delambre, de Méchain, de Machin Chouette ou d'autres, aux mesures prises sous diverses latitudes, longitudes ou altitudes. Ah oui, que ça lui était bien égal et qu'il s'en foutait. Mais qu'est-ce qu'ils allaient prendre, les Vélans ? Ce que fut le devoir d'application qui suivit cette première leçon, on l'apprendra plus tard. Qu'il suffise de savoir que les gaillards avaient tous une méthode personnelle pour rouvrir, sans qu'il y parût, le livre fermé par ordre supérieur et se mettre à couvert contre les défaillances de mémoire. N'empêche que le père Simon était dans une belle rage le lundi suivant. Mais n'anticipons pas. Quand 11 heures sonnèrent à la tour du vieux clocher paroissial, ils attendirent impatiemment le signal de sortie, car tous étaient déjà prévenus, on ne sait comment, par infiltration, par radiation ou d'une toute autre manière, que Lebrac avait trouvé quelque chose. Il y eut, comme d'habitude, quelques bonnes bousculades dans le couloir, des bérets échangés, des sabots perdus, des coups de poing sournois, mais l'intervention magistrale fit tout rentrer dans l'ordre et la sortie s'opéra quand même normalement. Sitôt que le maître fut rentré dans sa boîte, les camarades fondirent tous sur Lebrac comme une volée de moineaux sur un crottin frais. Il y avait là, avec les soldats ordinaires et le menu fretin, les 10 principaux guerriers de Longeverne, avides de se repaître de la parole du chef. Lebrac exposa son plan qui était simple et hardi. Ensuite, il demanda quels seraient les sus qui l'accompagneraient le soir venu. Tous briguèrent cet honneur, mais 4 suffisaient, et on décida que Camus, la Crique, Tintin et Grand Gibus seraient de l'expédition. Gambette, habitant sur la côte, ne pouvait s'attarder si longtemps. Guignard n'y voyait pas très clair la nuit, et Boulou n'était pas tout à fait aussi leste que les 4 autres. Là-dessus, on se sépara. Au soir, sur le coup de l'Angélus, les 5 guerriers se retrouvèrent. « As-tu la crie ?» fit Lebrac à la Crique qui s'était chargé, vu sa position près du tableau, d'en subtiliser 2 ou 3 morceaux dans la boîte du père Simon. La Crique avait bien fait les choses. Il en avait chipé 5 bouts, de grands bouts. Il en garda un pour lui et en remit un autre à chacun de ses frères d'armes. De cette façon, s'il arrivait à l'un d'eux de perdre en route son morceau, les autres pourraient facilement y remédier. « Alors, filons !» dit Camus. Par la grande rue du village d'abord, puis par le trajet des cheminées rejoignant au gros tilleul la route de Velleran, ce fut un instant une saboté sonore dans la nuit. Les 5 gars marchaient à toute allure à l'ennemi. « Il y en a pour une petite demi-heure à pied, » avait dit Lebrac. « On peut donc y aller dedans 1/4 d'heure et être rentré bien avant la fin de la veillée. » La galopade se perdit dans le noir et dans le silence. Pendant la moitié du trajet, la petite troupe n'abandonna pas le chemin ferré où l'on pouvait courir. Mais dès qu'elle fut en territoire ennemi, les 5 conspirateurs prirent les bas-côtés et marchèrent sur les banquettes que leur vieil ami le père Bréda, le cantonnier, entretenait, disaient les mauvaises langues, chaque fois qu'il lui tombait un œil. Quand ils furent tout près de Velleran, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements des chiens plus menaçants, ils firent halte. « Ôtons nos sabots, » conseilla Lebrac, « et cachons-nous derrière ce mur. » Les 4 guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs chaussures. Puis ils s'assurèrent qu'ils n'avaient pas perdu leur morceau de craie, et l'un derrière l'autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l'oreille tendue, le nez frémissant, ils s'engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible l'église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne. Attentif au moindre bruit, s'aplatissant au fond des fossés, se collant au mur ou se noyant dans l'obscurité des haies, ils se glissaient, ils s'avançaient comme des ombres, craignant seulement l'apparition insolite d'une lanterne portée par un indigène se rendant à la veillée ou la présence d'un voyageur attardé menant boire son carcan. Mais rien ne les ennuya que la voix du chien de Jean Desgué, un salopio qui gueulait continuellement. Enfin, ils parvinrent sur la place du Moutier, et ils s'avancèrent sous les cloches. Tout était désert et silencieux. Le chef resta seul pendant que les 4 autres revenaient en arrière pour faire le guet. Alors, prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi haut que possible, le braque inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui fermait le saint lieu cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à l'heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son orthographe fantaisiste. Tous les Vellerans sont des peignes-culs. Et quand il se fut, pour ainsi dire, collé les quinquets sur le bois pour voir si ça avait bien marqué, il revint près des quatre complices aux écoutes et, à voix basse et joyeusement, leur dit « Filons !» Carrément, cette fois, ils s'engagèrent de front sur le milieu du chemin et repartirent sans faire de bruit inutile à l'endroit où ils avaient abandonné leurs sabots et leurs bas. Mais sitôt rechaussés, dédaigneux tout à fait d'inutiles précautions, frappant le sol à plein sabot, ils regagnèrent Longeverne et leur domicile respectif, en attendant avec confiance l'effet de leur déclaration de guerre.